Yeah. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et en effet, c'est vers toi que nous voulons nous tenir et nous te remercions, Seigneur, d'être présent au milieu de nous. C'est ta promesse, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes assemblés en ton nom ce matin. Et maintenant, nous désirons écouter ta parole, nous désirons être enseignés par toi et fortifiés par cette parole de vie. Que tu nous fasses la grâce, Seigneur, d'entendre ce que nous avons à entendre, afin que nous puissions nous corriger. Parce que nous savons bien que nous ne sommes pas comme nous le devrions. Mais nous te louons, Seigneur, parce que tu nous reçois tels que nous sommes, mais tu ne nous regardes pas tels que nous sommes. Tu nous regardes au travers de Jésus-Christ. Et c'est par lui que nous sommes considérés comme justes, d'une parfaite justice, celle du Christ, dont nous avons été revêtus, que nous avons reçus par la foi. Et nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, pour ça. Amen.
Amen.
Hébreux 11. Hébreux 11, et nous lisons les versets 34 à 40. Hébreux 11, les versets 34 à 40. Non, mais on va lire depuis le verset 32, en fait. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection. D'autres furent livrés aux tourments, et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Aujourd'hui, nous allons prendre congé de la galerie des témoins de la foi, des héros de la foi. Et vous vous souvenez peut-être qu'il y a 15 jours, nous avons passé en revue quelques-unes des personnalités du livre des juges, Gédéon, Barak, Jephté, Samson. Quatre personnages quelque peu atypiques, bien qu'assez différents les uns des autres. En fait, si c'était nous qui avions dû choisir des témoins de la foi, probablement que nous n'aurions pas choisi ceux-ci. Pourquoi ? Ben justement, parce qu'on ne les aurait pas trouvés assez bien. Correspondant à l'idée que nous nous faisons d'un homme de foi. Nous aurions choisi des hommes ou des femmes plus lisses, bien sous tout rapport. On aurait cherché chez eux une certaine perfection, en nous trompant bien nous-mêmes, comme si la perfection était de ce monde-là. Et comme on ne les aurait pas trouvés, ces hommes parfaits, on se serait empressé de gommer l'un ou l'autre de leurs travers, de vite les oublier, en se disant que de cette manière-là, ah, ils ne seraient pas si mal. C'est un peu hypocrite tout ça, non ? Eh bien, ce que nous avons vu la dernière fois avec ce quatuor, Gédéon, Barak, Samson et Jephté, c'est que Dieu n'est pas comme ça. La Bible ne cherche pas à gommer, à cacher les faiblesses humaines et même les faiblesses des meilleurs d'entre les serviteurs de Dieu. Et encore, s'il ne s'agissait que de faiblesses, la parole de Dieu expose au grand jour tout aussi bien leurs péchés que leurs faiblesses. Pas pour les condamner ou les critiquer, mais pour montrer qu'en définitive, justement, les meilleurs d'entre nous, d'entre ces serviteurs de Dieu, n'étaient pas bien différents de nous. Et que c'est toujours par la grâce que nous sommes sauvés. Et ce qui nous a bien encouragés avec les quatre personnages du livre des Juges, c'est justement que le Saint-Esprit, par la plume de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, a mis devant nos yeux quatre hommes pleins d'imperfections. Des hommes qui ont eu pour certains des comportements qui nous auraient fait honte. Mais qui, néanmoins, ont été animés d'une foi digne d'être prise en exemple. Des hommes avec leur personnalité propre, pour certains, comme Samson, avec un tempérament haut en couleur. Et vous voyez, Dieu se sert de chacun de nous tel que nous sommes. Nous n'avons pas à chercher à être quelqu'un d'autre que la personnalité que Dieu a lui-même tissée dans le ventre de notre mère. Mais à être nous-mêmes, en nous efforçant de mettre ce que nous sommes au service de Dieu et de notre prochain. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de l'Église. C'est que des personnalités, des caractères si différents puissent vivre ensemble dans la paix et l'harmonie, puissent apprendre à s'apprécier, à se soutenir les uns les autres, à user, comme le dit Romains 12, à user de prévenance réciproque. Ce qui nous unit, ce n'est pas d'être des personnes identiques, avec les mêmes centres d'intérêt, la même façon de vivre, mais c'est notre foi commune dans le Seigneur Jésus. La même grâce qui nous a été faite pour que nous puissions connaître Dieu comme notre bon Père céleste. Il nous reste encore deux derniers noms dans notre galerie des témoins de la foi, sur lesquels nous allons maintenant nous arrêter, et ce sont David et Samuel, encore des géants en quelque sorte. Oui, sans doute, des géants. Et nous aurions bien tort de vouloir nous comparer à eux, en tout cas dans l'appel qu'ils ont reçu de Dieu. Parce que l'Éternel les a mis à part pour accomplir des actions d'une très grande envergure. Mais c'est dans leur vie même, leur manière d'appréhender les hommes et les circonstances, dans leur soumission et leur crainte de Dieu, c'est là que nous avons à retirer quelque chose pour nous. Commençons par Samuel, puisqu'il précède David dans le récit biblique. Là, l'auteur l'a mis après David, mais en fait, dans le récit biblique, il est avant. Samuel sera donc le dernier des juges en Israël et le premier d'une longue série de prophètes de l'Ancienne Alliance qui va se poursuivre jusqu'à Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Samuel, c'est l'homme de la transition, au travers duquel interviendra une grande transition pour le peuple d'Israël. Parce que on voit au début du premier livre de Samuel que la fonction sacerdotale, entourait les sacrifices, la sacrificature qui permettait de faire le lien entre Dieu et le peuple, et entre le peuple et Dieu, que tout ça, ça avait complètement failli. C'était devenu catastrophique en Israël. On le voyait déjà dans le livre des Juges, mais là, avec les deux fils du souverain sacrificateur Élie qui était également juge, et qu'il ne faut pas confondre avec le prophète Élie, avec ses deux fils, donc, on est arrivé à des extrémités rarement atteintes. Les deux fils d'Élie étaient des hommes pervers qui ridiculisaient le sacerdoce, qui le foulaient aux pieds. Et c'est dans ce cadre-là qu'a lieu la naissance de Samuel, le fils d'Anne et d'Elkana. Anne, qui était stérile, encore une, et qui pria instamment l'Éternel pour qu'il lui accorde un fils. Et si Dieu voulait bien lui accorder cette grâce, alors l'enfant lui serait consacré. Vous vous rappelez, c'était aussi ce qui avait eu lieu avec Samson. Et voilà que l'Éternel a eu compassion de Anne et lui a accordé un fils, Samuel. Et comme promis, sa mère va le consacrer à Dieu. Et c'est comme ça que cet enfant, peut-être ce jeune homme, s'est retrouvé au service de l'Éternel devant Élie. Et on se souvient tous probablement de cette célèbre nuit où l'Éternel a appelé Samuel plusieurs fois. Et lui, croyant que c'était Élie, se dépêchait d'aller vers lui pour lui demander ce qu'il voulait. Et finalement, il a compris que c'était Dieu. Dieu qui lui annonçait que la maison d'Élie serait punie à perpétuité pour toujours à cause du crime de ses deux fils. Et parce qu'Élie n'était pas intervenu sévèrement auprès d'eux. Voilà, bon, je suis obligé de passer sur plusieurs autres faits du récit pour ne pas rallonger. Mais ce qu'on constate dans la Bible à propos de Samuel, c'est que le Saint-Esprit le place au même rang que Moïse et Aaron, et encore que David. Tellement son influence a été grande en Israël. D'ailleurs, c'est durant le ministère de Samuel, après la faillite du système sacerdotal dans le peuple hébreu, comme je l'ai dit, c'est comme ça que les deux premiers rois d'Israël seront sacrés. Et par Samuel, justement. C'est Samuel qui va sacrer les deux premiers rois. Et pour le premier, contre l'avis de Samuel. Mais il s'est finalement plié à la volonté populaire, tout simplement parce que Dieu lui-même, voyant le coup raide de son peuple, a accepté qu'il se choisisse un roi. C'est comme ça que Samuel va d'abord oindre Saül, qui se montrera bientôt indigne de la fonction. Et alors, il va oindre ensuite, avec l'huile d'onction, il va oindre David, le grand roi David. Comme dimanche dernier, voici encore il y a 15 jours, encore une belle citation du dictionnaire de la Bible de Jean-Augustin Bost concernant Saül. Cette fois, une citation qui nous montre à quel point la vie de ce juge et prophète en Israël est un exemple pour nous. Un exemple dans sa manière d'appréhender les hommes et les événements, de se tenir tout près de Dieu et de se mettre en retrait chaque fois qu'il le faut. Écoutez bien. Et pour commencer, juste quelques mots sur ce qu'il a accompli, sur ce que Samuel a accompli. Voici ce que Jean-Augustin Bost dit. L'influence de Samuel sur les affaires publiques et sur l'État et la reconstitution d'Israël fut immense. Il renversa l'idolâtrie, réveilla par ses actes comme par ses paroles la crainte de l'Éternel. Il ranima l'esprit national, apaisa les rivalités de tribus internes au peuple d'Israël, établit conformément aux vœux populaires la royauté qu'il renferma par une charte qui était jurée réciproquement par les parties, dans des limites destinées à garantir l'indépendance et la liberté de la nation contre les excès possibles du pouvoir. Tout ce qu'on aurait exactement besoin aujourd'hui. Samuel l'a fait pour le peuple d'Israël. Il appuya le roi par ses conseils fondés sur la sagesse, la modération, la justice et l'esprit théocratique qui devait présider à tous les actes du peuple juif. Et maintenant, ce qu'on peut tirer comme exemple pour nous de la vie de Samuel, c'est toujours Bost qui parle. Samuel est le même depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il semble qu'au milieu de tous les changements dont il est témoin, lui seul ne change pas. Samuel est solide. Il tient sur ses bases. Calme, tranquille, ferme, prudent. Il se montre un homme de foi, jusque dans les plus petits détails de sa conduite. Il annonce les oracles de Dieu, mais il ne fait rien pour qu'il se produise. C'est l'Éternel qui va le faire. Il n'en fait rien. Il communique à Élie les menaces divines, mais il ne change rien à ses rapports avec son vieux maître. Il rejette Saül devant les anciens du peuple, mais il évite de l'humilier. Il loint David pour succéder à Saül, mais il se retire dans sa ville, laissant à Dieu le soin de faire triompher le jeune berger. Actif pour ce qu'il doit faire, passif pour le reste. Il se montre sans fraude et réalise le type du chrétien. Bel exemple. Et on voit pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne pouvait pas clore sa galerie des héros de la foi sans mentionner Samuel. Sans transition, quelques traits à propos de David maintenant. David qui fut un chef d'Israël et de Juda exceptionnel, par son courage, son intelligence, sa perspicacité, son humanité, sa sensibilité et même sa virtuosité, si on peut dire, puisqu'il était un excellent musicien. Mais ce qui couronnait toutes ces choses, qui englobait toutes ces choses et qui caractérisait vraiment le roi David, C'était bien sûr sa foi, sa crainte de l'Éternel. Par-dessus tout, peut-être l'honneur qui était le sien de défendre la cause de Dieu. Comme on le voit très tôt dans sa vie, quand encore jeune homme, il n'avait pas craint d'affronter le géant Goliath. Écoutons simplement pour le plaisir et pour notre édification les quelques versets de 1 Samuel 17 qui nous rapportent les paroles de David à Goliath. 1 Samuel 17. Le Philistin, donc Goliath, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. David nous laisse ici le témoignage que pour accomplir la volonté de Dieu, et déjà simplement pour lui rester fidèle, il nous faut passer par bien des combats. Et c'est bien ce dont nous nous rendons compte, n'est-ce pas ? La vie chrétienne, la vie d'enfant de Dieu, de serviteur de Dieu, n'est pas facile. Parce que nous vivons dans un monde de péché. Et aussi parce que nous-mêmes, nous sommes attirés par des choses qui déplaisent à Dieu. Mais la certitude et l'expérience de David, et il faut aussi qu'elle soit la nôtre, c'est que si Dieu est avec nous, alors la victoire nous est assurée. Toute victoire est en Christ. Et c'est lui qui a vaincu le malin et qui a réglé une fois pour toutes son compte au péché. Maintenant, comme tous les autres, comme les juges dont nous avons parlé il y a 15 jours, mais aussi comme tous les hommes de Dieu dont la Bible nous rapporte les exploits, même les plus grands, comme Moïse ou Abraham, ou encore Jacob, David a eu, lui aussi, ses failles. Et pas des moindres. L'Éternel a eu plusieurs fois l'occasion de se mettre en colère contre David. Mais la haute position de David en tant que roi d'Israël, cette position élevée de chef du peuple de Dieu, ne lui montait pourtant pas à la tête. À une exception près, le jour où il avait fait le dénombrement de ses troupes, d'ailleurs contre les avertissements sévères de son général d'armée, Joab. Mais non, David, de manière générale, se considérait avant tout comme un serviteur de l'Éternel, comme Samuel, en somme. Et une des marques du serviteur de Dieu, c'est quoi ? C'est de savoir s'humilier, savoir se repentir de ses fautes et s'en détourner. Et alors quand David devait le faire, s'humilier à cause de son péché, bien en même temps, Ils savaient retrouver. Retrouver quoi?
Ouais,
la paix de Dieu et la joie. La paix et la joie de Dieu. Oui, une fois que son péché était confessé et qu'il avait reçu l'assurance du pardon de Dieu. Là encore, nous avons avec David un tellement bel exemple de foi qui devrait nous encourager quand il dit au psaume 32 « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Voilà en quoi consistait la foi de David. Et on n'est finalement pas étonné quand nous entendons l'Écriture sainte, lui décerner un magnifique certificat quand elle dit de lui non seulement que Dieu l'avait choisi parce que c'était un homme selon son cœur, mais encore ceci, dans 1 Roi 15:5, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, le Héthien. Vous savez, c'était l'épisode dramatique de l'adultère avec Bathsheba, puis du meurtre de son mari Uri, officier de Joab. Mais vous voyez, ce n'est pas ça que Dieu veut retenir dans la vie de David. Ce ne sont pas ses péchés, ses chutes, aussi profondes qu'elles aient pu être. Et pour nous non plus. Ce n'est pas ça que l'Éternel veut retenir. Et c'est la raison pour laquelle on trouve encore cette magnifique marque d'approbation de la part de Dieu, cette fois dans 1 Roi 14, verset 8, quand l'Éternel reproche à Jéroboam, qui était roi d'Israël après le schisme, lui reproche d'être un roi impie. Et l'Éternel le compare à David. Il dit à Jéroboam, « Tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. » David, dont la royauté n'aura jamais de fin, tout simplement parce qu'elle dure éternellement dans le fils de David. Parce que c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus, notre Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre, au bout de notre belle galerie des témoins, des héros de la foi. Et maintenant, nous allons terminer ce 11e chapitre, sans aller dans tous les détails, mais en cherchant à en retirer quelques enseignements pour nous. D'abord, dans les versets 33, 34 et début de 35, nous voyons des victoires terrestres de la foi. Je veux dire, des victoires évidentes obtenues par ceux qui ont exercé leur confiance, leur obéissance à Dieu. Mais on voit tout de suite après, dans le même passage, que ça, ce n'est pas une règle de remporter toujours des victoires. Hein, ce n'est pas une règle. Alors oui, il arrive en effet, et à nous aussi, il arrive que Dieu permette à ses enfants, généralement parmi les plus fidèles quand même, de remporter de grandes victoires dans ce monde de ténèbres. Où Dieu répond aux prières d'une manière éclatante, en faisant reculer le diable et ses démons, les faire battre en retraite. Et c'est la justice qui triomphe. Et avec les héros de la foi que nous avons vus, c'est la plupart du temps ce qui s'est passé. Néanmoins, au travers de rudes combats. Mais maintenant, j'ai dit que ce n'était pas forcément la règle. Bien sûr, nous savons que la victoire finale, quand le Christ reviendra pour juger le monde, que cette victoire finale sera à cet égard pour le diable et ses armées et tous les hommes qui l'auront suivi, que cette victoire sera irrémédiable et définitive. Ils seront jetés en enfer pour toujours, dans un lieu de tourment continuel. Et ce sera alors la délivrance, elle aussi définitive et parfaite, des enfants de Dieu. Tous ceux que le Seigneur aura sauvés par sa croix entreront dans la gloire, dans la paix et la joie éternelle. Mais voilà, pour le moment, ce n'est pas encore le cas, et c'est pourquoi nous voyons dans beaucoup d'endroits sur la terre des situations où nous avons l'impression que ce n'est pas le Seigneur qui règne, mais le prince de ce monde, tellement la condition des enfants de Dieu est difficile, parfois pratiquement insupportable. On en parlait récemment avec le comité de l'Église, et nous avons prié hier matin, pour les jeunes femmes prises en otage par les terroristes de Boko Haram, les esclaves sexuels qui vivent des atrocités. Ce n'est pas pensable que des êtres humains puissent tomber si bas dans la perversité, dans la cruauté envers d'autres êtres humains, tous créés à l'image de Dieu. Et c'est donc ce genre de situation, peut-être pas toujours aussi extrême que celle de ces jeunes femmes, quoique parfois ce n'est guère mieux, c'est ce genre de situation dont nous parle le verset 37, de personnes lapidées, sciées, torturées. Ça s'est passé à toutes les époques. Que des chrétiens qui refusent d'abjurer leur foi en Jésus-Christ soient traités pire que des animaux, en subissant des vexations et des outrages terrifiants, abominables. Il y a eu les galères pour les hommes et la tour de Constance pour les femmes, après la révocation de l'édit de Nantes. Marie Durand a passé près de 40 ans dans la tour de Constance, enfermée, sans jamais voir la lumière du jour. Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, ça fait exactement 333 ans, quand on a commencé à pourchasser les protestants pour qu'ils abjurent leur foi réformée. Et combien y en a-t-il qui ont été torturés puis pendus à cette époque? Mais là, je repense bien plus près de nous à ces images surréalistes des 21 chrétiens coptes, égyptiens, dans leur combinaison orange, agenouillés sur une plage de Libye, devant leur bourreau, prêts, si l'on peut dire, à être décapités. C'était en février 2015. Derrière eux, les djihadistes, tout de noir vêtus, encagoulés, leur laissait le choix ultime. Embrasser l'islam ou mourir. Ils sont tous morts par le couteau après qu'ils aient crié en chœur « Oh mon Seigneur Jésus !» Verset 35. Pour être délivrés de leurs conditions difficiles, de leurs épreuves qui les conduisaient presque à coup sûr à la mort, il aurait fallu qu'ils renient le Seigneur. Là, je parle autant de ceux dont il est question dans le chapitre 11 de notre épître que de tous les héros de la foi de ces derniers siècles, de ces dernières années dont on vient d'évoquer le souvenir douloureux et glorieux. Pour être délivrés de leur bourreau, il aurait fallu qu'ils abandonnent le fondement de leur foi, ou tout au moins qu'ils fassent de sérieux compromis avec ce qu'ils avaient cru jusqu'ici. Mais alors, rendez-vous compte, ne risquaient-ils pas, pour gagner peut-être quelques années supplémentaires de vie terrestre, ne risquaient-ils pas d'abord d'être honteux pour toujours d'avoir renié le Seigneur Jésus, mais peut-être bien plus de perdre la vie éternelle dans le ciel? Là, je vous le dis franchement, que je ne sais pas très bien. Parce que nous voyons dans l'Évangile un apôtre Pierre qui, dans la même soirée, a renié trois fois son maître. Et pas du bout des lèvres, pas du bout des lèvres. Non, je ne connais pas cet homme. Et pourtant, le Seigneur lui a fait grâce. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que pour tous les témoins de la foi, c'est l'honneur de Dieu avant tout. L'honneur de Dieu est la célébration de sa grâce qui nous a manifesté dans son Fils bien-aimé. C'est ça qui dépasse toute autre considération. Tous ces chrétiens, ils ont bien compris que le reniement de la foi, le reniement du Dieu Sauveur, ne pouvait tout simplement pas être à l'ordre du jour. Non, parce qu'ils savaient intimement que leur pèlerinage terrestre devrait bien prendre fin un jour. Et qu'alors ils pourraient, aujourd'hui, plutôt que demain, rejoindre la patrie céleste qu'ils avaient toujours eue dans leur champ de vision. Maintenant, je vous demanderai juste de réfléchir à ce qui a conduit tous ces hommes, ces femmes, ces enfants parfois, à la mort. Leur foi, oui. Mais comment cette foi s'est-elle manifestée? Par leur obéissance, par leur désir d'accomplir la volonté de Dieu, telle qu'elle leur avait été révélée. Les prophètes de l'époque recevaient directement de Dieu ces directives par des songes et des visions, par des paroles claires qui leur étaient adressées, on ne sait pas très bien comment. Et nous, comment Dieu nous révèle-t-il sa volonté? Par sa parole écrite. Et je voudrais dire exclusivement par sa parole écrite. C'est-à-dire que ce qui fait l'objet de notre foi, et par conséquent tout ce que nous devons entreprendre pour Dieu, pour son Église, pour notre prochain, tout ça doit bien concorder avec l'enseignement de l'Écriture que l'Église fidèle s'efforce de transmettre au peuple de Dieu. Sinon, alors, il vaut mieux nous abstenir. Verset 38. Des prophètes ont été contraints de errer dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les gouffres. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient rejetés par le monde. Aux yeux du monde, ils n'étaient pas dignes de vivre une vie normale, une vie comme les autres. Tout simplement parce qu'ils cherchaient en toute chose à plaire à Dieu, en manifestant une foi courageuse. Et ça, pas seulement quand ils se trouvaient dans le cercle restreint de ceux qui pensaient à peu près comme eux, mais en toutes circonstances. En fait, regardez, notre texte dit quelque chose qui devrait nous encourager à imiter ces gens, ces prophètes en particulier, dont il est question ici, ou ces 21 chrétiens coptes. Le texte ne dit pas que c'était eux qui étaient indignes, mais que le monde qui les rejetait n'était pas digne d'eux. Comprenez bien ceci. Si on vous rejette à cause du témoignage de votre foi, parce que vous cherchez à vivre d'une manière digne du Seigneur, digne de l'Évangile, cet Évangile par lequel vous connaissez l'amour du Père, sa grâce et sa générosité infinie à votre égard, Eh bien, n'en ayez pas honte si on vous rejette. Ne mettez pas de l'eau dans votre vin pour plaire aux hommes. S'ils vous rejettent, c'est qu'ils sont indignes du royaume de Dieu, indignes même de se tenir en votre présence, puisque vous êtes porteurs du Christ. Voyez bien qu'ils se disqualifient eux-mêmes. C'est un jugement contre lui-même quand le monde rejette les enfants de Dieu, quand il rejette les ambassadeurs de Jésus-Christ, ce qui aurait pu leur apporter la réconciliation avec Dieu, la bénédiction du salut. En vous rejetant, c'est bien eux qui se montrent indignes, honteusement indignes. Rejeter le sel de la terre et la lumière du monde, c'est préférer la vie insipide et terne d'un monde sans espérance. C'est préférer l'obscurité à la lumière, le mensonge, la mascarade, à la vie débordante que le Christ a mise dans nos cœurs. C'est préférer enfin la corruption d'un monde qui se détruit à petit feu jusqu'à ce qu'éclate la colère de Dieu. Voilà, on va terminer avec les versets 39 et 40. Bon, je m'aperçois qu'on a commencé avec le psaume 49 qui était sec, hein, puis on finit aussi avec cette prédication. Bon, c'est comme ça. Tous les croyants de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, ont obtenu le témoignage qu'ils étaient agréés de Dieu. Pourtant, ils sont tous morts sans avoir obtenu ce qui leur était promis. Eh oui, parce qu'il fallait d'abord que le Christ vienne pour nous ouvrir la porte des cieux, nous tracer le chemin, la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, comme le disait le verset 20 du chapitre 10 de notre épître. Cette route qui nous introduit dans le paradis de Dieu, le sanctuaire céleste. Il est venu, notre souverain sacrificateur. C'est là, dans la Jérusalem céleste, dans la présence même de Dieu, que se trouve le meilleur et la perfection dont il est parlé à la fin de notre 11e chapitre. Ou plus précisément, ce quelque chose de meilleur dont il est question au verset 40, c'est justement la perfection du ciel. Perfection qui nous a été acquise par le Seigneur Jésus. Lui qui a été élevé pour nous à la perfection. Comment ? Par les souffrances qu'il a endurées. Les croyants de l'Ancienne Alliance n'avaient encore que les promesses, mais auxquels ils sont demeurés fermement attachés. Tandis que nous, mes amis, nous avons déjà la chose promise, la divine réalité, le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait connaître à nous, il s'est donné pour nous, il a fait sa demeure en nous, si nous avons reçu le Saint-Esprit dans nos cœurs. Alors, quelle ne devrait pas être notre assurance, notre courage, si nous voulons nous comparer aux témoins de la foi de l'Ancienne Alliance, et aussi des témoins du 21e siècle, et ceux des siècles précédents qui nous ont montré le chemin. Ce pourquoi il fallait que nous nous tenions prêts à renoncer même à notre vie. Un dernier mot. Ce matin, on a parlé plusieurs fois du courage. Et je me demande si ce n'est pas une des vertus qui fait le plus défaut dans l'Église d'aujourd'hui, en tout cas en Occident. Notre vie est trop facile, trop délicate, trop lisse. Je ne sais pas très bien comment le dire, mais vous voyez bien que nous n'avons pas été formés à la souffrance, à la crainte d'être chassé ou torturé pour notre foi. Et alors, nous tenons trop à notre confort. Nous sommes trop habitués aux commodités et à la mollesse de la vie moderne occidentale. Alors, mais ça, j'en suis persuadé. Si bien que nous avons peu de raisons de nous réjouir de rejoindre enfin la patrie céleste, de nous réjouir du retour du Seigneur. Ce qui est tombé parmi les épines, dit Jésus, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Que le Seigneur parle à nos cœurs, qu'il nous secoue, qu'il nous donne du courage et la joie d'être courageux. Amen. Amen.